Bonjour, ici Bethlehem Hickman. Bienvenue pour cette nouvelle émission de Troisième Planète où on parle d'environnement et de société. Aujourd'hui, on reçoit Mathieu Caron, un entrepreneur général d'un nouveau genre qui fait de la rénovation écologique. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Alors, ça fait un peu plus d'un an que tu as créé ton entreprise qui s'appelle MC2 Rénovation Écologique. Mais en fait, ça fait bien longtemps que tu es dans le milieu de l'éco-construction ou l'éco-bâtiment, avec notamment le projet de rénovation du centre Frédéric Bach. Mmh. Et puis la création d'éco-bâtiments. Donc, raconte-nous un peu comment t'es venu à l'éco-rénovation finalement, un peu ton parcours.
Ça fait une dizaine d'années que je travaille dans le milieu de la construction. J'ai commencé comme menuisier sur des chantiers ici à Québec, à Montréal aussi. Et je me suis retrouvé entre autres en Suisse sur un super beau projet dans les montagnes, dans les Alpes. Un des premiers projets verts que j'ai fait du genre qui m'a donné la piqûre. Et de fil en aiguille, je suis abouti sur le projet du Centre Culture Environnement Frédéric Bach. J'ai cofondé en 2007 l'organisme Éco-Bâtiment qui travaille toujours encore aujourd'hui sur Salaberry à faire de la sensibilisation pour les travailleurs de l'industrie de la construction, de la formation, du service conseil, etc. C'est une super belle équipe. Et entre autres, on a géré le projet, tout le côté développement durable de la rénovation du Centre Culture Environnement Frédéric Bach, construit un mur en ballot de paille sur 4 étages de haut dans le commercial, ce qui était une première en Amérique du Nord. Vraiment beau projet qui a été incendié par un pyromane et qu'on a refait par la suite après l'avoir préfabriqué. Donc, des gros projets qui m'ont vraiment donné la piqûre. J'ai eu la chance d'être choisi aussi pour la télé documentaire Habitat 07, où on a construit à Baie-Saint-Paul une maison, la première maison autonome énergétiquement, en tout cas c'était ça l'objectif, branchée sur le réseau d'Hydro-Québec pour une maison qui renvoie de l'énergie dans le réseau si elle en consomme plus qu'elle en produit. Et à force de travailler dans le domaine sensibilisation, j'en suis venu à me dire ben j'aimerais se retourner aussi sur les chantiers comme menuisier. Je me suis un peu pris les pieds dans les fleurs du tapis et là je suis de retour sur les chantiers après avoir fondé MC2 comme entrepreneur général, maintenant vraiment juste dans la rénovation résidentielle.
D'accord. Ici à Troisième Planète, on parle d'empreinte écologique. Avant qu'on rentre dans le détail de ce que tu fais, finalement, fais un peu de pédagogie sur quand on s'engage à acheter ou à rénover son habitat, finalement, il y a des impacts environnementaux qu'on ne connaît pas forcément. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu quels sont les différents impacts
oui,
quand
absolument.
On choisit sa maison, quand on fait de la rénovation?
Quand je travaillais pour Éco-Bâtiment, on parlait souvent d'empreinte écologique, puis on disait souvent aux travailleurs de la construction que construire neuf, même si la maison est certifiée LEED ou Nouveau Climat, on va en parler sûrement tantôt, c'est toujours plus d'impact que rénover un bâtiment existant. Et de toute façon, rénover, habiter, construire une maison, puis l'occuper pendant plusieurs années, pour nous, c'est l'occasion d'en profiter. C'est une bonne opportunité pour en profiter pour réduire sa consommation d'eau, réduire sa consommation d'énergie, réduire sa consommation de matériaux qui viennent d'un peu partout dans le monde. Améliorer aussi la qualité de l'air intérieur. Mm. On passe 80% nous de notre vie à l'intérieur des bâtiments, surtout au Québec, dans des climats comme le nôtre, qui sont des climats difficiles avec des taux d'humidité et des températures changeantes. L'air à l'intérieur de nos maisons est pas toujours aussi sain qu'il l'était dans le temps de nos grands-parents, à cause des matériaux qu'on rentre, à cause des enveloppes qui sont de plus en plus étanches. Donc, c'est une bonne occasion d'améliorer la qualité de l'air intérieur. C'est une bonne occasion de consommer plus localement, plus responsable, je pense.
Ouais. Puis aussi le choix de l'endroit où on vit.
Oui.
Aussi, il n'y a pas
c'est
juste
c'est
la localisation.
Et pour ça, la rénovation, c'est encore une fois la meilleure occasion, je pense, de reconstruire la ville sur la ville, de retaper des vieux duplex de Limoilou, de Saint-Sauveur, de Saint-Roch, qui sont souvent inconfortables, qui sont souvent mal adaptés aussi à nos vies actuelles. Puis qui sont dans des quartiers qui sont super bien desservis par les transports en commun, où il y a une mixité de services incroyable. Donc, on n'a pas besoin de se rendre à ces maisons-là en VUS, suburban. Puis, si on le voit, je veux dire, moi, dans les projets que j'ai accompagnés avec Éco-Bâtiment, on en a accompagné beaucoup des belles petites maisons de ballots de paille construites dans des banlieues seulement accessibles en gros char, puis des fois tu dis que c'est pas super cohérent.
Ouais, ouais, ouais. Tu parlais justement de ces écoquartiers, ces bâtiments LEED qu'on mm-hmm. appelle. C'est souvent des projets neufs qui sont assez assez compliqués. Les gens font beaucoup de rénovations. Finalement, ça veut dire quoi faire de l'éco-rénovation?
Ben, de l'éco-rénovation, je l'ai dit un peu tantôt, mais d'après moi, les deux grands thèmes principaux dans la construction durable, ça devrait être la rénovation et la construction de qualité. Si déjà tu rénoves et tu améliores le patrimoine bâti, c'est un des plus grands gestes que tu peux faire, d'après moi, sur la construction. Et ensuite, si tu fais une construction de qualité, poser les bons matériaux aux bons endroits, ça prend des bons entrepreneurs généraux avec des bons ouvriers, déjà, c'est à peu près les deux plus grands gestes ou les deux gestes les plus cohérents que tu peux faire. Puis, si tu veux aller encore plus loin, faire de l'éco-rénovation, on peut s'inspirer des certifications comme LEED pour améliorer l'efficacité énergétique de la maison en ajoutant des bons isolants aux bons endroits, en améliorant l'étanchéité de l'enveloppe, en utilisant des peintures sans composés organiques volatiles, des scellants sans urée formaldéhyde, en réduisant la consommation d'eau à la source, en utilisant des toilettes ou des appareils à faible réduit, à débit réduit, etc. C'est plusieurs petits gestes qu'on peut ajouter, mais qu'on doit, d'après moi, ajouter à la base qui est rénover le patrimoine existant puis construire de façon intelligente de qualité.
Ouais, tu me disais aussi que en faisant de l'éco-rénovation, on a plus de latitude qu'un constructeur de bâtiments neufs, finalement.
Absolument, absolument, parce qu'on fait souvent affaire directement avec le client. Nous, comme on est dans le domaine résidentiel, on fait affaire directement avec les clients. Des fois, on passe... Le client peut nous donner des plans qui ont été faits par un technologue ou un architecte, mais la plupart du temps, on est le lien, on est la courroie de transmission entre le client, les sous-traitants, etc. Donc, on peut se permettre... Puis mon équipe, je travaille avec des gars qui ont beaucoup d'expérience, fait qu'ils mettent beaucoup d'énergie dans le design, dans l'ergonomie, dans l'aménagement des espaces. Puis ça fait toute la différence au final pour le client. Donc, ça nous donne plus de latitude, puis ça nous permet justement, à cause de ça, d'innover ou d'intégrer les innovations en matière de développement durable sur les chantiers au jour le jour, au quotidien.
Ouais. Et il y a des certifications en éco-rénovation?
Il n'en existe pas. Je sais qu'il y en a qui s'en viennent. Il en existe en Amérique du Nord, mais au Québec, présentement, Éco-Habitation est en train de développer une certification pour guider les entrepreneurs, mais ça va être volontaire pour un grand bout de temps. Puis encore une fois, ça s'inspire de Nouveau Climat, de LEED, puis d'à peu près qui s'inspire de toutes les autres certifications mondiales.
Ouais. Tu disais donc tu es un peu la courroie de transmission entre architectes, sous-traitants, etc. Les architectes aujourd'hui, ils voient ça comment quand vous intervenez sur un chantier, puis que vous donnez aussi un peu votre avis sur
Écoutez, dans le résidentiel, on travaille moins avec les architectes. On travaille souvent avec leurs plans, mais on est moins en lien direct avec eux. En fait, sur l'échelle des projets sur lesquels nous, on travaille, j'imagine plus les projets seraient gros, plus on aurait la chance de les côtoyer. Mais c'est comme partout ailleurs. Hein. C'est une équipe qui peut être super bien rodée, où chacun prend sa place. Puis en même temps, si les métiers sont décloisonnés, l'architecte accepte qu'on fasse une partie de son travail ou qu'on lui donne un coup de main à faire une partie de son travail, puis il est le bienvenu pour poser les deux par quatre, si tu veux, aussi.
Oui, oui, oui. C'est facile de trouver, finalement, les matériaux écologiques, parce qu'on a l'impression que c'est compliqué.
Ça dépend toujours de ce qu'on cherche, mais moi ça fait à peu près 10 ans que je surveille l'actualité dans le domaine. Il y a 10 ans, c'était toujours plus cher. Ça d'ailleurs, c'est une idée qui est, ça fait partie encore des idées préconçues, là. Construire vert, c'est plus cher. D'après moi, c'est pas le cas. Construire de qualité, c'est définitivement plus cher que faire le minimum. Et encore une fois, petite parenthèse, dans la rénovation, on échappe un peu au prototype du plus bas soumissionnaire conforme qui, dans les grosses jobs institutionnels, avec le BSDQ, etc., c'est toujours celui qui bête le plus bas qui a la job. Mm-hmm. Puis normalement, s'il bête le plus bas, c'est qu'il a mis à peu près tout ce qui se trouve de plus cheap sur le marché. On échappe encore une fois un peu à cette logique-là du plus bas soumissionnaire conforme dans la rénovation. Fait qu'on peut dire que rénover de qualité, ça coûte plus cher que rénover cheap. Mais rénover durable, après, c'est juste faire, d'après moi, les bons choix au bon moment, puis trouver des matériaux qui coûtent à peu près le même prix. Du bois, par exemple, du bois certifié FSC, qui est une certification de bois bon jardiné de façon intelligente dans des forêts qui vont pas appauvrir des terres arables, etc. Ben ce bois-là maintenant il coûte le même prix que le bois standard. Fait qu'un 2x4 certifié FSC coûte le même prix. Il s'agit de le trouver, mais plus on stimule l'offre et la demande, plus ça va être facile à trouver.
Ouais. Justement, tu disais que pour l'instant, c'est des petits chantiers, c'est des individus. Est-ce que tu penses que dans l'avenir, ça sera finalement des plus gros soumissionnaires qui auront des projets de rénovation, comme on peut le voir au centre Frédéric Bach, finalement, des bâtiments plus grands
Pour nous, tu veux dire, pour notre équipe absolument. Ça serait intéressant, mais en même temps, d'après moi, pour devenir bon dans quelque chose, il faut aussi trouver une niche. Fait qu'on c'est sûr qu'il faudra pas trop s'éparpiller puis faire de tout, mais oui, pourquoi pas. Présentement, on a la licence pour ajouter un étage sur le château Frontenac, si on veut. Mais on va s'en tenir à la rénovation résidentielle pour un petit bout de temps.
Ouais. Tu disais justement, il faut créer un marché. Il y a un marché du bois certifié, mais c'est un marché mondial. Ça, c'est pour ça que ça, ça se développe. Notamment... En Europe, on a l'impression parfois qu'ils sont un peu en avance et que c'est eux qui stimulent justement ce marché. Toi, ta vision
C'est difficile et c'est dangereux de comparer les contextes de l'Europe au nôtre, mais si on compare avec un climat qui ressemble au nôtre en Europe du Nord ou en Scandinavie, on est allé faire un tour dernièrement, puis on a réalisé qu'ils sont proactifs, mais ils sont proactifs aussi parce que des décisions vraiment importantes puis innovantes se prennent en haut. Ici au Québec, la ville de Québec, on a tous des plans d'action en développement durable puis des stratégies quinquennales de développement durable. Puis on voit pas toujours l'application de ces stratégies-là au quotidien dans nos jobs. Puis il y aurait certainement moyen de stimuler l'offre puis de créer une demande par la ville de Québec ou même par le gouvernement provincial, entre autres en donnant des incitatifs techniques, du soutien technique, soutien financier pour ceux qui veulent rénover vert dans leur ville. Puis il y a des avantages à grande échelle pour eux, fait qu'ils pourraient.
Il y a pas des mesures en termes de justement d'aide pour l'éco-efficacité énergétique des bâtiments?
Il y en a. La plupart de ces aides-là viennent du fédéral.
D'accord.
Puis le financement est souvent hésitant, mais il est souvent up and down. Mais on pourrait faire mieux. On pourrait toujours faire mieux. De toute façon, l'offre est déjà là. L'industrie privée s'en charge de répondre à la demande, mais on pourrait faire mieux. On pourrait inciter un peu plus les gens puis décoller la courbe d'apprentissage un peu plus vite, d'après moi.
Ouais. Tes clients, finalement, c'est quel profil de personnes qui font appel à ton équipe?
Souvent c'est des couples fin trentaine jusqu'à fin quarantaine qui ont envie de faire des gestes concrets puis qui ont vraiment envie de rénover à leur goût, mais souvent en améliorant en même temps la performance environnementale globale de leur projet sans se casser la tête, en ayant une facture correcte au bout de la ligne, puis du travail de qualité qui va durer longtemps. Puis c'est souvent des clients qui sont branchés sur Internet, qui ont envie d'avoir aussi souvent un instantané de la réalisation des travaux.
Oui.
Donc un budget qui est suivi en continu. Puis encore une fois, ça, c'est une belle liberté qu'on a comme entrepreneur général. Je veux dire, sur mon iPhone, moi, je peux avoir l'échéancier au complet, puis le calendrier et le budget aussi du chantier, prendre des factures en photo au fur et à mesure, puis à tous les jours ou à tous les deux jours, envoyer un suivi au client pour lui dire, ben là, par exemple, on vient d'ouvrir un mur qu'on savait qu'on allait ouvrir. On vient de réaliser que c'est du pièce sur pièce derrière. C'est classique. Par exemple, le projet où on travaille présentement sur Benoît XV. On a eu des surprises en ouvrant les murs, puis on se rend compte que l'enveloppe était pas isolée. Ben, dans ce temps-là, on peut proposer au client de lui dire, ben, on imagine que ça va coûter peut-être 1 000 $ isoler ça dans les normes pour améliorer l'efficacité énergétique.
Mm-hmm.
Puis si tu veux, on peut t'aider à déplacer ce poste budgétaire-là ailleurs, puis trouver de l'argent ailleurs dans ton budget, en faire moins ailleurs. si tu veux qu'on arrive avec la même facture finale. Ouais. Ça, c'est une belle liberté qu'on a. Puis ça, d'après moi, c'est un bon résumé de la job d'entrepreneur général. C'est le gardien du chantier. C'est lui qui prépare le travail des sous-traitants, puis qui le surveille, puis qui l'organise. C'est lui qui planifie, mais c'est lui qui répond aussi aux imprévus pour le client, puis qui essaye de trouver des solutions au fur et à mesure. Puis avec l'équipe que j'ai, c'est extraordinaire pour ça. Là. Ils ont l'expérience de justement être capable de se revirer de bord sur une scène.
Ouais. Mmh. Ce retour là sur investissement, c'est forcément des projets à plus long terme. Peut-être que ils demandent à savoir au final, à la fin du projet, en combien de temps, quelles économies ils vont faire.
On parle du client.
Ouais.
On n'en est pas rendu encore à faire, je ne sais pas si je comprends bien ta question, mais je vais y répondre par un service que je voudrais éventuellement développer, c'est-à-dire d'être capable, en rentrant sur un chantier, donc sur une future construction, de faire le bilan un peu de la performance environnementale de la maison, là, présentement, surtout énergétique, parce qu'environnemental, des fois, c'est un peu vague. Mais dire, par exemple, la maison, elle consomme combien de kilowattheures par mètre carré ou par pied carré, puis de dire au client, ben dépendamment... On vous promet ou on va essayer d'en arriver à telle performance de l'enveloppe, par exemple, à la fin du chantier. Ça se fera pas l'année prochaine, mais c'est un service que moi, j'aimerais éventuellement développer. Puis, à partir de cette étiquette-là que la maison pourrait avoir quand on part du chantier, ben, le client pourrait s'en servir pour avoir éventuellement des subventions, pour avoir... ou même en vendant la maison.
En vendant, oui, c'est ça.
C'est une façon de dire, ben là, c'est le portrait de la consommation. Au même titre qu'on achète une boîte de biscuits, maintenant, on a toujours le nombre de... tu sais, le pourcentage de glucose... ci, de ça, ben la maison, on pourrait avoir éventuellement une étiquette qui nous montre la consommation d'eau au pied carré, la consommation de kilowattheures au pied carré, le taux d'urée formaldéhyde dans l'air au millimètre cube. Là, j'exagère, là, j'en mets un peu, mais c'est le genre de produit que moi, je voudrais développer éventuellement.
Ouais. On va faire une petite pause musicale, puis on se retrouve tantôt.
Que és flor per flor. Minha filha és flor, boca més té bé. Oi, ma mãe, você que és flor per flor. Minha filha és flor, boca més té bé. Que flop a flam, oh mamãe, minha coração tita chorar, cheio de dor. Cusé com ta fazer, que essa pronta, onde com tita vai, que tristeza. Cusé que flop a flam, oh mamãe, minha coração tita chorar, cheio de dor. Cusé com ta fazer, que essa pronta. Onde com ti tá bem, que tristeza. Boca me este bem. Boca me este bem. Boca me este bem. Oi, mamãe, você que esfla pra flã. Boca me este bem. Oi, mamãe, você que esfla pra flã. Minha filha esfla. Boca me este bem. Você que esfla pra flã, oh mamãe. Minha coração te tá chorando, cheio de dor. Cusé com ta fazer, que essa afronta. Onde com ti tá bem, que tristeza. Cusé que esfla pra flã, oh mamãe. Minha coração te tá chorando, cheio de dor. Cusé com ta fazer, que essa afronta. onde contita vai, que tristeza.
Et nous sommes donc de retour. On a parlé de tes chantiers. Est-ce qu'il y a des... Il y a pas mal d'idées reçues sur quand on fait de la rénovation. Ensuite, les gens se précipitent sur faut changer les fenêtres, forcément.
Mm-hmm. Oui, il y en a beaucoup. Écoute, il y a celle-là, il y en a. Les ouvriers en ont, les gars avec qui je travaille en ont des idées préconçues. On n'est pas obligé de manger du végé pâté sur le midi, dans nos lunchs. C'est possible de fumer sur les chantiers écologiques. Mais les idées préconçues pour ce secteur-là sont surtout reviennent surtout au même. On a vu beaucoup de grano, d'illuminés, de hippies et de curés aussi s'intéresser au domaine de la construction durable pour des bonnes et pour des mauvaises raisons. Mais c'est souvent pas les meilleurs ambassadeurs de la cause. On pourrait appeler ça comme ça. Moi, ce que je trouve positif, c'est qu'en 10 ans d'intérêt dans le domaine, j'ai vraiment vu ça changer. C'est maintenant les professionnels, beaucoup qui ont monté des réseaux d'experts, qui ont monté des réseaux de veille technologique, des fois qui ont monté des réseaux juste pour se voir puis parler de ce domaine-là, puis encore une fois sortir un peu les métiers de la construction de leur cocon et faire des ponts entre les différents métiers de la construction. Puis ça, c'est le client qui en bénéficie parce que ces réseaux-là, ils existent. Ces réseaux-là font circuler l'actualité dans le domaine. Puis c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à l'information. Fait que ça, d'après moi, c'est un cliché qui est de moins en moins vrai. Il y en existe encore, là. Puis de toute façon, les granos ont le droit de se construire des maisons écolo. Mais c'est maintenant un secteur qui a été récupéré pour le meilleur et pour le pire par l'industrie de la construction, par l'industrie du marketing aussi, qui nous tape dessus puis qui en beurre épais souvent avec le verre. Ça, faut faire attention parce qu'il y en a pour qui c'est juste du marketing, c'est juste une façon de se faire voir. Mais en général, moi je trouve que c'est super encourageant de voir ça aller au Québec. Il y a de plus en plus de jeunes entrepreneurs qui prennent le virage vert, puis qui font prendre le virage vert à leurs sous-traitants, aux manufacturiers de portes et fenêtres, aux manufacturiers de scellants, d'adhésifs, de produits, en leur posant des questions, puis en leur demandant les gammes un peu plus vertes que finalement leurs clients finissent par leur demander aussi. Fait que c'est encore une fois l'offre et la demande, puis ça, je trouve ça particulièrement encourageant. Puis on en a parlé tantôt aussi, un autre cliché, c'est que c'est souvent une affaire de professionnel, d'architecte ou d'ingénieur. Il y a 10 ans, quand moi j'ai commencé à m'impliquer au sein du Conseil du bâtiment durable, ici à Québec, qui avait fondé une petite section, une petite cellule Ville de Québec, j'étais le seul professionnel, si on veut, qui n'était pas architecte ou ingénieur. Puis maintenant, dans ce petit cercle-là, dont je ne fais plus partie directement, mais dans lequel je m'implique encore, il y a des manufacturiers, il y a des architectes, des ingénieurs, évidemment, mais il y a des entrepreneurs, il y a des ouvriers, il y a des designers, il y a des clients potentiels aussi, il y a des professionnels en immobilier, il y a des vendeurs d'assurance, il y a des vendeurs de maisons. Alors, tout ce qui est le grand secteur de l'habitation puis de la construction commence à considérer ça comme autre chose qu'un trip ou comme autre chose qu'une mode passagère, mais comme une opportunité d'affaires, une bonne opportunité d'affaires, puis une opportunité en même temps de faire les choses comme du monde.
Ouais. Je pensais justement aux agents immobiliers qui sont finalement le premier interlocuteur avec le client qui va acheter une maison, une propriété.
Oui.
Et c'est des gens qui sont sensibles justement à cet argument en disant finalement ce bâtiment est ancien, vous allez devoir le rénover, mais il y a la possibilité de faire des rénovations, on peut faire des économies, etc. Ils sont sensibles à cet argument-là ou...
Je les connais pas tous. Je connais les agents immobiliers avec qui j'ai magasiné, moi, des maisons, puis ils l'étaient. Mais ils l'étaient aussi parce que je leur demandais de l'être.
C'est
fait
ça.
Qu'en même temps, c'est des arguments qu'à force de chercher des maisons, ils ont développé avec moi. Mais ce que je voyais, c'est que, d'abord, ils étaient intéressés. Ils voyaient le marché potentiel. Puis c'est intéressant aussi à apprendre avec maintenant Google, c'est possible en un clin d'œil de pouvoir faire la liste. Puis maintenant ils font beaucoup, par exemple des services de proximité qui est autour d'une maison. Puis de dire à son client, ben tu sais, c'est un argument de vente là. Ta maison est à moins de 500 mètres d'un hôpital, d'une pharmacie, d'un bar, d'un café, d'un restaurant. Puis c'est pas juste ça, c'est un point LEED, par exemple. Dans la certification LEED, on a des points pour une localisation performante, être proche des services. Pouvoir se déplacer à pied pour aller chercher sa pinte de lait, vraiment, ça revient à ça. Puis il y a des agents immobiliers qui pour ce que j'en sais, font déjà le décompte de ces points-là. Aller jusqu'à dire que il y a un potentiel de rénovation qui pourrait te faire sauver tant, sûrement. Sûrement, il y en a sûrement qui vont jusque-là, tant mieux. Mais c'est probablement pas la majorité.
Ouais. Parlez un peu de tes clients. Tu me disais que ça marchait bien finalement.
Ça marche super bien.
MC2 Rénovation.
Ah oui, ça s'enligne pour être un printemps et un été extraordinaire.
Donc ça c'est bien. Mm-hmm. Donc en fait c'est plus le bouche à oreille, je pense, qui.
Pour l'instant, on a la chance que ça soit juste du bouche à oreille, des amis. Ma copine a créé une petite page Facebook entreprise. Pour le plaisir, on avait déjà réservé des noms de domaine pour un site web, puis on s'est dit, en attendant, c'est plus facile, avant de créer un vrai site web, on va faire une page Facebook entreprise, qui est facebook.com/mc2rénovation, c'est facile à trouver, et juste pour mettre le portfolio des contrats 2012, des jeunes contrats 2013. Puis en une semaine et demie, deux semaines, on a booké notre année, l'équipe au complet.
Wow!
Puis booké l'année avec vraiment des super beaux contrats. Il nous reste un peu de place dans l'agenda pour des nouveaux contrats. Puis on en prend toujours, puis on planifie aussi l'automne. Mais c'est vraiment encourageant. Vraiment encourageant. Puis ça, c'est des amis. Le réseau proche.
Parle-nous un peu de ces projets. Mm-hmm. Est-ce qu'il y en a un en particulier où tu as eu une innovation ou quelque chose où tu allais chercher
Le projet dans lequel je suis présentement, là, sur lequel on a travaillé encore toute la journée à préparer, on coule la dalle de béton ce vendredi. Et c'est un projet assez particulier. C'est un condo sur Benoît XV dans Limoilou. Il y en a beaucoup de condos dans Limoilou. Ça, c'en est un qui va être vraiment intéressant. On a trouvé une façon d'insonoriser le plancher en utilisant des membranes faites à 100% de pneus recyclés. Fait que c'est des membranes avec des gros cailloux de pneus recyclés qu'on met sur le plancher existant, sur un carton fibre, et c'est là-dessus qu'on va couler la membrane. C'est là-dessus qu'on va couler la dalle, plutôt de béton léger. Fait que c'est beaucoup de travail, c'est du travail innovant, c'est du travail que personne n'avait fait dans le coin. Même le vendeur de membranes était vraiment impressionné par ce qu'on allait faire. Puis on a hâte de voir le résultat. On a pulvérisé aussi de la cellulose, qui est du papier journal recyclé, entre les poutrelles. Fait que juste le travail d'insonorisation du plancher de ce projet-là, c'est dans les beaux projets qu'on a fait dernièrement.
Est-ce que je peux me permettre une petite question? Là, on parle d'un plancher entre deux étages.
Entre deux étages, oui.
Et qu'est-ce qui vous fait dire que ça va bien fonctionner en termes d'isolation? Parce qu'on sait que...
D'insonorisation.
Ouais. On sait que souvent, on met beaucoup d'énergie à faire ça, puis que ça marche pas, ou que ça marche presque pas. C'est tout à fait... J'ai jamais entendu parler d'une isolation comme ça.
Reposez-moi la question dans une semaine. Je vais vous dire si la cliente est contente ou non. Mais déjà souffler la cellulose comme on a fait en faisant des grandes tranchées là, dans le plancher pour être sûr que la cellulose se rende partout à moyenne densité. Pour les bruits dans l'air, les sons graves et aigus, ça fait déjà toute la différence, on le voit. Moi qui ai une grosse voix, on m'entend plus quand je suis au rez-de-chaussée puis je chante. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Là, c'est les bruits d'impact, le problème. Puis avec les bruits d'impact, c'est une structure en 2x8 standard aux 12 ou 30 pouces. Fait que charpente de bois, c'est pas comme un condo neuf ou qui est planifié pour une dalle de béton. Donc les murs porteurs, on les tasse pas. On coule entre les murs porteurs. Donc avec du carton fibre, du scellant acoustique, on essaie de le mieux possible réduire les possibilités de transmission des bruits d'impact. Mais c'est sûr que ça sera jamais parfait. Sauf que, à mon avis, avec le travail qu'on a fait, on va le voir dans une semaine, mais ça ne réduira pas tous les bruits d'impact. Mais il va avoir une très, 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 très grosse différence. Au final, surtout que par-dessus cette dalle-là, on ajoute un autre type de membrane qui est, elle aussi, faite à base de pneus recyclés. Et par-dessus ça, le plancher, qui est un plancher d'ingénierie, donc bois franc et contreplaqué, va être flottant. Fait que la somme de tout ça, donc il n'y a aucun ancrage mécanique sur à peu près 3 pouces et demi dans le plancher. Il y a une vraie masse d'à peu près 15 livres au pied carré, donc ce que la charpente est capable de prendre, ça va faire, à mon avis, une bonne différence. Mais vous pouvez me reposer la question.
Non, mais c'est sûr que par définition, là, ça va extrêmement assourdir les sons, puis ça va être à peu près l'équivalent d'un condo qu'on construit, là, neuf.
Probablement pas. C'est presque impossible. C'est à cause, justement, de la charpente de bois, des murs porteurs, des détails, des solives de rives à l'extérieur du bâtiment. Il y a une partie de la job qu'on ne peut pas faire sans tout arracher.
Le ciment léger, c'est quoi, ça?
Le ciment léger, c'est du ciment, c'est du béton léger, en fait, qui n'est pas à base de ciment, mais c'est un mélange qui est vraiment fait pour des dalles flottantes, des dalles pour recouvrir des planchers actuels. Donc, c'est à peu près le mélange de béton le plus léger au pouce carré qui se fait. Sur un pouce, trois quarts en moyenne, dans notre cas, on va en être à peu près 14 livres du pied carré. Ce qui n'est pas grand-chose quand on considère, mettons, qu'un toit vert, c'est 45 livres au pied carré. Juste pour vous donner une idée.
C'est intéressant.
Ça, c'est juste un détail. Là. C'est un détail d'un chantier, mais c'est chaque chantier est différent. Chaque chantier aussi est plein de surprises. Très difficile à prévoir, la rénovation. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut travailler avec des gars d'expérience. J'y reviens. Je sais pas s'ils sont en train d'écouter présentement. Mais on sait qu'on a des gars aussi d'expérience quand... Là, je fais un clin d'œil. Quand on entend le genre d'expression qu'on entend sur mon chantier, comme « Oupelay » ou... ce genre d'expression-là. Quand les gars font quelque chose tout croche, on entend « Mon doux Jésus » ou « Mon doux » sur le chantier. Ça, c'est signe qu'il y a de l'expérience dans l'équipe de travail. Et ça fait toute la différence parce que des murs de pièce sur pièce, ils en ont fait plusieurs, ils en ont réparé plusieurs. Fait que ça s'achète pas, là.
Ouais.
Ouais.
Bah, écoute, on te souhaite plein de beaux projets.
Merci.
Encore pour cette année. Et puis, on va se quitter. Merci d'avoir été avec nous.
Ça m'a fait plaisir.
Ouais. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine, Julien, sur Troisième Planète, mercredi à 17h. Au revoir.
Anyway!